Bonjour, c'est Une vie, une œuvre. L'été d'Une vie, une œuvre sonne comme un anniversaire, 1969-2019. Que se passait-il il y a 50 ans ? Arpentons ensemble le temps de notre grille d'été, cette année-là. Pour ce mois d'août spécial 1969, Une vie, une œuvre part à Woodstock. Cela tombe drôlement bien, Une vie, une œuvre regorge de personnages emblématiques liés de près ou de loin à ce festival mythique. Commençons par Nico, de son vrai nom, Krista Pavgen. Nico est un de ces personnages fascinants qui font les légendes sans même s'en donner la peine. Cette grande et belle Allemande était un mannequin réputé lorsqu'elle quitta le monde de la mode dans les années 60. Elle fit partie du quasi mythique Velvet Underground en compagnie de Lou Reed et de John Cale et sous la protection d'Andy Warhol. L'album The New Velvet Underground and Nico sera l'un des 15 tubes de l'été sortis entre 1967 et 1969. Et cette année-là, Nico sortira son second album solo, The Marble Index, où elle joue de l'harmonium, instrument qui deviendra le sien pour le reste de sa carrière. Aujourd'hui, Patrick Boudet et Céline Terce signent Une vie, une œuvre, Nico.
Nico.
Marcellino, Brutino, Cattivo, Frocci, Bene.
Dove vai?
A Bassano di Tucci, in un castello del mio fidanzato.
Perché non mi ci porti?
Dans cet été, danse à la Marquise de Sade.
Tu m'en fais pas peur.
Living legend, psychedelia star. The face that launched a thousand joints, the Underground's Nico, the Velvet Underground's Nico, Andy Warhol's Nico. Suddenly, in Britain for a month of concerts and live in the studio with her Genghis Khan, Nico.
Nico, les cicatrices intérieures, par Patrick Boudet et Céline Terce.
Les vents de minuit atterrissent à la fin des temps. Les vents de minuit atterrissent à la fin des temps. Une histoire vraie veut être à moi. Une histoire vraie veut être à moi. L'histoire raconte un vrai mensonge. L'histoire raconte un vrai mensonge.
The bandits be my witnesses. His torch shall be my knife.
Les mandolines sonnent à son chant de viol. Les vents de minuit atterrissent à la fin des temps.
La première image que j'ai eue d'elle, elle était à l'époque avec un ami à moi qui s'appelait Nico Papatakis, qui était un mec magnifique.
Zouzou.
Et je croise dans Saint-Germain, il était avec une grande fille blonde, et il me présente Nico, il me dit c'est un mannequin suédois. Elle était grande, elle avait des formes, belle suédoise.
Tu ne veux pas me parler. Tu es fâché. Merveilleux ça. Je ne t'ai pas oublié, tu sais. Je pense souvent.
L'histoire est assez obscure.
Serge Ferret.
Elle est repérée par Herbert Tobias à Berlin, un photographe allemand qui a beaucoup photographié les ruines de Berlin. Et en souvenir de son amant, Nico Papatakis, Tobias donne à Nico un nom de scène. Il lui dit, bien, je veux que tu me rappelles mon amant, Nico Papatakis, qui était donc le producteur du film de Jeunet, Un chant d'amour, et lui dit, je t'appellerai Nico. Et c'est là que Krista Pavgen devient Nico. Elle commence à faire des séances de photos dans toute l'Europe et même en Amérique. Donc, cette petite fille qui quitte l'école à 13 ans va très vite parler anglais, italien, espagnol. Elle va devenir polyglotte et voyager à travers le monde entier. et à Cinecittà, elle croise Fellini. Fellini lui dit « J'ai rêvé de toi, je reconnais ton visage, à la lueur des bougies, tu seras magnifique. » Dans la Dolce Vita, il lui demande d'être elle-même, elle s'appelle Nico. Elle est un mannequin qui en a assez de faire du mannequinat, qui aimerait bien passer à autre chose. Mais il lui demande surtout de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nico est quelqu'un qui parle très peu. Et donc, pendant les 12-13 minutes où elle apparaît à l'écran, aux côtés de Marcello Mastroianni, elle parle allemand, elle parle anglais, elle parle français, elle parle même, prétend-elle, esquimaux.
Nicolina, siamo qua!
Avete posto per mio amico e me?
No, sali sulla macchina dietro.
Ok, Dolore, allora on se voit au château.
Va bene, ciao.
C'è posto qui per due creature infelici? Hello, Mary, when did you
arrive? C'è il quadro qua dietro, salite là!
Oh, Dio mio!
Elle apparaît comme ça, comme une des figures voilà, de cette bohème chic, entre guillemets, que filme Fellini, donc à Rome en 1959-60.
Thierry Jousse.
Et après, l'autre film que je connais d'elle, c'est un film assez obscur aujourd'hui de Jacques Poitrenaud qui s'appelle Striptease, dans laquelle elle joue une stripteaseuse. Elle croise Gainsbourg sur ce plateau, puisqu'il est là, il joue un rôle d'un pianiste, il compose la bande originale avec Alain Goraguer, et elle chante, ce qu'on a su beaucoup plus tard, une première version de la chanson du film, qui s'appelle donc Striptease, qui finalement sera chantée par Juliette Gréco, mais il y a une version donc de cette chanson qui existe, et qui est assez réussie d'ailleurs, je trouve, qui n'a pas été retenue à l'époque.
Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Jour après jour s'en vont, une à une est mes illusions, à chaque nuit.
Il y a la fameuse chanson Striptease de Gainsbourg, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Bon, que Gainsbourg n'aimait pas, enfin, il n'aimait pas la version qu'on a fait Nico, mais...
Patrick Lean.
On était en 65, on peut très bien comprendre Gainsbourg qui écoute ça et qui dit « Ouais, mais on chante faux. » Voilà, genre pas spécialement impressionné, et dire « on va la faire chanter par Juliette Gréco ou par je sais pas qui, parce que là, ça craint un peu. »
Il faut pourtant que je te dise...
En 64, 65 et tout, je veux dire, quand Nico traînait à Paris, elle était presque inconnue, et elle avait l'image d'une loseuse, c'est-à-dire d'une vieille starlette qui avait essayé à la Cinecittà de réussir, bon, et que ça avait un peu foiré, et puis qui traînait à Paris.
Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés.
Elle rêve effectivement de devenir une vraie actrice, une actrice régulière, une actrice professionnelle. Et elle est pressentie pour être la vedette féminine de Plein Soleil, le film de René Clément, adapté de Patricia Highsmith. Le problème, c'est qu'elle oublie de se lever, elle oublie le rendez-vous, et que c'est Marie Laforêt qui est engagée à sa place. Elle se rend donc quand même sur les lieux du tournage, et là, elle y rencontre Alain Delon. 9 mois plus tard, Nico accouche de Harry, qui est son fils, et que Alain Delon ne reconnaîtra jamais.
Elle part à Londres, et après à New York, et elle devient Nico, et tout ça, quoi. Mais en France, elle a bien fait de partir de France, visiblement, quoi. Je veux dire, en 64, 65, c'était pas un pays pour elle.
À travers l'écran de ma fenêtre, démons dansent et des sons de la scène. Il appelle et lance ses bras en l'air, et personne n'est là. Tous sont manquants, quand le jeu commence. Et personne n'est là.
Avant que le Velvet Underground soit formé, tu as rencontré Andy Warhol.
Oh oui, je l'avais rencontré chez Castel. J'allais danser. Et Andy aussi, avec ses amis. Et on dansait tous ensemble. On dansait des danses à la Marquis de Sade.
Comment est-ce que tu as rencontré Lou Reed et John Cale avec qui tu avais joué au début du Velvet Underground il y a 4 ans? Comment est-ce que tu les as rencontrés?
Je les ai vus dans un café à Greenwich Village. Le café bizarre. Et j'étais très très impressionnée.
Et à quel moment?
C'était la plus belle passage de ma vie.
C'était quand?
Il y a 5 ans.
La rencontre avec Warhol, elle se fait chez Castel à Paris, dans la boîte de nuit, où Nico se trouve avec le photographe Willy Maywald, et où le même soir se trouve Warhol, qui est venu à sa première exposition parisienne, à la galerie d'Iliana Sonnabend. Warhol est avec Eddie Sedgwick, il est avec Gérard Malanga, et Nico se présente à eux. Elle rappelle qu'elle a bien connu Serge Gainsbourg. Elle cite Fellini, évidemment, elle cite Dylan, elle cite les Stones, Brian Jones. Warhol se dit impressionné. Peut-être est-il autant impressionné par sa beauté que par ses références. En tout cas, il l'invite à venir le rejoindre à sa factory à New York.
This is Ingrid Superstar talking about the factory and that spread. This is three-dimensional, these are little arrows that shoot out. This is linear, it's very high contrast, black and white, not like an ordinary photograph.
Oh, really?
That's a very kind editing.
À la factory, Warhol est séduit. Tout de suite, il la pose devant une caméra et lui demande de ne pas jouer, d'être naturel, d'être belle, et il la filme. Screen test, bout d'essai, premier film avec Warhol. À la factory, il devient superstar. Superstar, ça veut pas dire star plus grande que les autres stars, ça veut dire star d'Andy Warhol. Eddie Sedgwick est superstar, c'est la superstar du moment. Viva plus tard sera superstar, Ultraviolette est superstar, Nico est une superstar aussi. La superstar, qu'est-ce qu'on attend d'elle? On attend qu'elle soit belle, qu'elle soit proche du pape du pop art, et puis qu'elle ait quelques talents particuliers. Pour Eddie, de talent d'actrice. Pour Nico, le talent de chanter.
Well, we want to talk about the book.
Yeah.
Did you look at it?
The product of the underground. Is that it?
It's supposed to be emblematic of the world of Andy Warhol. It's Andy's book.
Mais elle va aussi jouer dans plusieurs films de Warhol. I, a Man, Four Stars, le fameux film de 25 heures d'Andy Warhol. Sausalito, Imitation of Christ, un film de 8 heures. Chelsea Girls, le plus célèbre peut-être. Alors c'est Paul Morrissey qui trouve épouvantable la musique du Velvet Underground et qui pense que pour compenser le bruit horrible, le genre de bruit horrible que font Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison et Maureen Tucker, il faut mettre quelque chose de beau sur le devant de la scène. Et ce quelque chose de beau, ça doit être celle que Paul Morrissey appelle la plus belle créature qui ait jamais vécu, Nico.
Yes, it's true, 'cause everybody knows
she's a vivid
the things she does to please.
She's, a
she's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows.
Pouvez-vous me suivre? Pouvez-vous suivre mes détresses, mes caresses, nager et couler dans les miséricordes du petit matin? La nuit, le jour caresse, vous caresse, me caresse. À l'aube, votre silhouette a rempli mes nuits de peur.
I've lost a friend, and I don't know why. But never again will we get together to die. And why, after every last shot, was there always another? Why, after all you hadn't got, did you leave your life to your mother?
Nico dit « C'est en arrivant à New York que j'ai compris mon fond germanique comme une éclipse. » Par contraste avec le monde de New York, avec l'atmosphère de New York, elle se rend compte qu'elle est allemande, qu'elle est européenne. Et je pense qu'il y a un effet de miroir aussi, un « I'll be your mirror » aussi, avec John Cale, qui lui aussi vient d'Europe puisqu'il est gallois. Lou Reed, c'est le poète de New York, c'est le poète de Manhattan, c'est le poète urbain. John Cale, Nico, représente un lien avec une culture qui a plus à voir avec la musique classique, avec la poésie romantique. Et une certaine complicité va se développer entre eux.
Je repense à plein de choses bizarres que je pouvais découvrir dans ces années-là, mais ça, je trouvais ça...
Mishka Asayas.
Déconcertant. On achetait plein de trucs bizarres, mais ça, c'était le plus bizarre de tous. C'est quelque chose de froid et de glaçant qui était décalé par rapport à tout le reste. Ça venait vraiment d'ailleurs.
Elle choisit un instrument qui n'a pas d'histoire d'un point de vue rock'n'roll. Un harmonium, un orgue indien. C'est un instrument qui est associé à l'époque soit à Allen Ginsberg, donc la poésie beat la plus échevelée, soit à la culture indienne, au raga. Terry Riley utilise un harmonium. On est quand même assez loin du rock. Et puis, dans l'harmonium, dans ce son d'orgue, elle espère sans doute retrouver aussi le son d'orgue des Doors, de son initiateur Jim Morrison.
C'est-à-dire que c'est l'incantation, la psalmodie, le récitatif plus que la chanson, avec couplet-refrain, même si elle a fait ça à ses débuts, la litanie. Donc peut-être que tout ça l'a lié à une certaine tradition folk, parce que quand vous écoutez par exemple des disques de Tim Buckley, vous avez ce côté incantatoire, des chansons qui semblent ne jamais se terminer, une sorte d'interrogation au-dessus du vide, quoi, parce qu'il y avait cette espèce de vide existentiel qui était transmis par la voix, les thèmes, ces paysages lunaires.
Midnight winds are landing at the end of time. Midnight winds are landing at the end of time. A true story wants to be mine. A true story wants to be mine. The story is telling a true lie. The story is telling a true lie.
Pour les paroles, l'influence vient clairement du romantisme anglais. Wordsworth, dont un poème a donné le titre de l'album, Marble Index, Coleridge, William Blake aussi. Musicalement, on sent à la fois les influences celtiques et puis cette tendance à construire des arabesques avec la voix, hein, de ce qu'on appelle des mélismes. Marble Index, c'est l'album archétypal de Nico, sans doute son chef-d'œuvre. Elle invente un style qui inspirera énormément des musiciens des années 80, je pense à toute la vague de folk post-apocalyptique, les Current 93, des gens comme ça. C'est un disque qui mêle un folk électronique à des ambiances proches de la musique bruitiste ou contemporaine.
Son imaginaire, c'est le romantisme. Il y a Baudelaire, il y a Coleridge, il y a Edgar Poe, mais il y a aussi des choses qui sont très spécifiquement à elle.
Christophe Lebold.
Il y a le Moyen-Âge, il y a la mort, il y a l'opium. Et il y a tout un substrat mythologique qui a l'air de venir d'endroits immémoriaux. Et elle crée, avec John Cale notamment, mais John Cale crée ça pour elle, une forme musicale qui est complètement inouïe. Ce mélange d'harmonium, de ritournelle, de mélodie qui tourne, cette voix grave de femme qui est plus grave qu'une voix d'homme, cette espèce de chant grégorien, ça semble surgir de nulle part. Ça nous donne l'impression de flotter, en fait, sur un océan d'harmonium et de partir à la dérive sur le rythme de sa ritournelle. Et ça, ça a une force d'ensorcellement.
This summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with the silver in her eyes, all the lovely faces.
Il y avait un côté un peu mystique, gothique, qui collait bien à l'époque. Le côté harmonium et tout ça, c'était assez en phase avec l'époque.
Etienne Dao.
Tiens, qu'elle jouait avec Tangerine Dream et Gong et tous ces concerts-là. Enfin, c'était un peu la même vague, quoi. C'était c'était assez fort. Je me souviens du concert que j'avais vu à Rennes, toute seule à l'harmonium. C'était vraiment très beau. Enfin, vraiment, on était complètement emporté avec sa voix.
Et puis, je l'ai vu à la cathédrale de Reims. J'avais tout juste 16 ans, je crois. J'ai fait le voyage dans le coffre de la voiture de mon père, parce que avec mon frère et des copains, et on était allé voir. C'était vraiment comme un, c'était comme une expédition mystique. On est allé voir le fameux concert de Tangerine Dream avec Nico. C'était un très impressionnant pour moi, parce que je voyais des gens couchés partout dans cette cathédrale glaciale. Il y avait un côté un peu sacrilège, hein, un concert de pop musique dans un lieu religieux. Ça, c'était pas du goût de tout le monde, je crois que ça avait fait scandale. Et puis elle était arrivée comme une druidesse là, avec son harmonium, très tard. Je pense que tous les gens dormaient à moitié. Enfin, je sais pas, il y avait un truc, mais il y avait, c'était vraiment une expérience presque de sorcellerie. Enfin, c'était très 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 étrange.
Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé là, car encore une fois, j'ai ce bout de structure de l'église devant moi, mais je crois que cette fois-ci, Nico a commencé son morceau. Je vous laisse avec elle.
D'ailleurs, ce fabuleux concert à la cathédrale de Reims, où j'étais allé avec Philippe Garrel et Racadis et tout ça, Philippe Garrel devait tourner, filmer Nico, quoi. Et ils avaient laissé la cathédrale de Reims, Weepy, il n'y a pas d'autre mot, pour un concert de Tangerine Dream et de Nico. Et c'était une vision complètement aberrante, parce que bon, à l'époque, on regardait quand même les concerts couchés, quoi. Et moi, je me revois, j'étais habillé tout en cuir noir, et Pacadis, qui connaissait par cœur les histoires d'architecture romane, gothique et tout ça, me racontait la cathédrale de Reims, voilà. Et on marchait sur les hippies, et quand les, parce qu'on était bien obligés, il fallait bien qu'on marche sur quelque chose, il y en avait partout. Et des fois, il avait comme ça un air hagard vers nous, et quand il voyait que j'étais en cuir noir, c'était là, nazi! Et puis il se redormait, et tout ça. C'était l'époque. C'était un bon concert de Nico, comme habituel, s'accompagnant à l'harmonium. Ce qui était plus délicat, c'était Garrel, parce qu'il était... Bon, il en rit maintenant, hein, donc c'est pas un secret. Il était tellement défoncé qu'il a filmé le pilier pendant la moitié du concert. C'est-à-dire qu'il y avait Nico là, un pilier là, et il a filmé le pilier, tellement il était raide. Et il avait mis dans sa caméra, il avait récupéré de la bobine qu'on lui avait donné, quoi, des chutes de films, comme ça se faisait à l'époque pour le cinéma underground et tout ça. Et il s'était gouré, il avait mis du film déjà tourné dans sa caméra, je pense que, enfin, il était mais raide défoncé, donc il n'y a aucun témoignage film de ça, quoi, je veux dire, quoi. Et puis en plus, ça devait être tourné par Pop 2, mais Pop 2, je crois savoir que Pop 2, croyant qu'il y avait Garrel sur le coup, en disant non, mais formidable, il y a un cinéaste underground déjà qui tourne, donc c'est pas la peine de se. Dans Francard a dû dire bon, bah non, on achètera le truc à Garrel ou on passera le film de Garrel, très bien, et donc du coup, il n'y a rien, quoi. Mais sinon, le concert était très bien.
Where are you taking?
Tu as tourné dans un film français il n'y a pas longtemps.
Oui, La cicatrice intérieure. C'est un film... C'est un film psychologique en même temps que du théâtre classique. Du théâtre grec classique, joué sur dans des décors naturels, dans des déserts uniquement.
Qui est le réalisateur de ce film, le metteur en scène de La cicatrice intérieure?
C'est un jeune metteur en scène français.
Qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Philippe Garrel.
Se rencontre en Italie, à Positano, donc dans la maison où habite, où séjourne en tout cas le peintre Frédéric Pardo et l'actrice Tina Aumont. Bon, il se passe visiblement quelque chose entre eux très tôt à cette époque, et on peut dire qu'elle s'installe dans la vie de Garrel comme dans le cinéma de Garrel. Alors, il y a une prémisse avant qu'elle rentre dans le cinéma de Garrel comme actrice ou comme figure, puisqu'elle donne un morceau à Garrel, donc qui n'est pas encore paru à l'époque, donc The Falconer, morceau qui figure dans l'album des Shore, pour le lit de la Vierge, qu'il est en train de terminer à cette époque-là, et c'est son premier cadeau voilà, amoureux à Garrel. Ensuite de ça, évidemment, il y a le film le plus important qu'ils ont fait ensemble, enfin le film le plus connu en tout cas, qui est La cicatrice intérieure, film tourné dans plusieurs déserts, on va dire, et au fond, d'une certaine manière, l'arrivée de Nico dans le cinéma de Garrel amplifie le côté cérémonial, c'est-à-dire il existait déjà avant, mais là, tout d'un coup, ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus marqué, parce qu'elle, elle a un côté grande prêtresse.
Die Zeit macht mir große Bange. Sie scheint mir so wie eine Fange ohne Griff. Ein Zeichen ohne Licht. Ein Weichen mit der Sicht im Kreuz. Das sich beugt und bricht.
Ils vivent dans un dénuement quasi total, c'est-à-dire que apparemment ils vivent dans un appartement à Paris sans électricité, sans eau, je crois, enfin en tout cas un truc complètement avec à la bougie, donc c'est vraiment le que Garrel filmera plus tard d'ailleurs, dans J'entends plus la guitare. Et il y a une espèce de puissance poétique en même temps dans les films, voilà, qui prend une dimension cosmique.
Alors on peut peut-être se souvenir qu'au départ, elle est mannequin. Et que ce qu'on demande aux mannequins, c'est d'être une déesse et une statue, mais inoffensive, qui est là pour le plaisir des yeux. Et ensuite, on lui écrit, dans le Velvet Underground, des chansons sur une femme fatale, mais sur une femme fatale qui serait aussi un peu inoffensive, qui serait aussi un miroir, où on peut se regarder. I'll be your mirror. Et c'est comme si son œuvre... Quelque part, son œuvre de poète partait de là, qu'elle prenait ses injonctions et qu'elle les retournait comme des armes et qu'elle les subvertissait. D'une part, l'injonction de beauté, elle va, comme Rimbaud, prendre la beauté, la poser sur ses genoux et l'injurier. Elle va injurier sa propre beauté, c'est-à-dire elle va créer à partir de sa beauté classique, marmoréenne, elle va faire de cette beauté-là une beauté bizarre, une beauté déchue, une beauté démolie, une beauté en ruine. Et on sait l'importance des ruines dans la beauté romantique. Et créer, du coup, une autre femme, cette Nico qui émerge à partir des années 70, qui est, il me semble, immensément belle, mais dont la beauté démolie a une puissance qui raconte tout ce qui est obscur dans l'existence. Et ça, c'est une révolte, déjà, parce que on lui donnait des impératifs de lumière. Il fallait qu'elle soit la blonde rayonnante. Et elle devient une espèce de beauté qui rayonne d'une obscurité, comme ça.
Came your way and when he had to go. Growing in the snow. Silently you go through the shadow of your soul.
Tout d'abord, elle était très imposante, elle était très grande, avec ses grandes capes, ses yeux, c'est toujours très impressionnant. Elle avait les yeux très clairs, très écarquillés, et avec sa voix grave, elle impressionnait beaucoup. Je savais qu'elle habitait Paris, qu'elle jouait dans les films de Garrel. Et donc j'ai pu rencontrer Nico à cette époque-là. C'était une autre Nico déjà. C'était plus du tout l'image iconique du Velvet. C'était une image à la fois qui était pas une image que j'aurais voulu avoir, bizarrement. Enfin, c'était une véritable rupture stylistiquement, musicalement. C'était une autre Nico, c'était plus la Nico du Velvet.
C'est l'image qu'elle avait, qu'elle a gardée jusque dans la fin des années 70, quoi. Elle avait toujours la même robe longue, comme ça, qu'elle portait avec des bottes, qui devaient être des bottes ethniques péruviennes ou quoi, là, sans talons, des grosses bottes, mais assez souples. J'ai toujours vu avec cette paire de bottes et ses cheveux teints au henné. Bon, je casse là un peu le mythe, mais c'est l'image de la cicatrice intérieure, en fait.
Elle va dire « Oui, je vais être une femme fatale, mais vous n'allez pas aimer la femme fatale que je serai. Je ne serai pas une femme fatale inoffensive, je serai les parcs. Je serai Médée, qui tue ses enfants. Je serai la fée Morgane, Fata Morgana. Je serai Circé, qui paralyse les hommes. Je serai le Sphinx. » Et du coup, elle crée une mythologie féminine qui n'existe pas à ce moment-là dans le rock, qui surgit d'ailleurs, qui surgit beaucoup plus loin.
Sans un guide, sans une main, vierge non mariée sur la terre, attachée sur le sable. Quand viendront là des bateaux sur la terre, ils attendront la révérence. Ils attendront la révérence des mains de leurs enfants.
C'était une apparition, Nico. De toute façon, les premiers concerts du Velvet Underground, elle était comme une œuvre d'art vivante. C'est-à-dire que c'est comme si on l'avait exposée. Elle a été, pour ainsi dire, exhibée comme un monstre. D'ailleurs, l'allure qu'elle avait, cette beauté glacée, cette impassibilité, cette absence de gestuelle, elle était comme une statue vivante, pour être précis. Et c'était complètement à contre-courant, parce que vous voyez les films montrant des chanteuses de rock, entre guillemets, de l'époque, soit Janis Joplin, Grace Lee de Jefferson Airplane, ou d'autres chanteuses de folk, etc. Il y avait quelque chose de très incarné, enfin de très démonstratif, etc. Et elle, c'est le contraire de la transe, Nico. Elle est figée.
Au centre de cette proposition, il y a une présence de la mort. De la mort comme objet de désir, comme une hypothèse qui serait infiniment érotique. Et peut-être c'est pas tant la mort en réalité que... Et ça c'est sans doute lié aux opiacés, que la suggestion du délice que sera une absence à la vie. Et Nico, c'est la grande absente. C'est celle qui, comme toutes les divinités, est toujours absente, même quand elle est présente, dont la présence est une grande absence. Et avec ses paroles, et l'enveloppement de ses paroles dans cette musique, elle nous place toujours face à elle dans des déserts. Dans le jardin d'Éden ou dans l'Apocalypse. En tout cas, elle nous invite toujours à nous absenter de l'existence, du présent, à vivre dans un monde... Le monde de Nico, qui, pour reprendre l'expression de Philippe Garrel, qui est un monde des hautes solitudes, où l'humain a finalement très peu de place. Où on est plutôt en contact avec le vent, avec le désert, avec des faucons, avec des sphinx, avec des apparitions qui surgissent du passé. Il y a Jules César, Genghis Khan, le Titanic. Et Nico surgit de ce monde-là. Un monde où, face aux forces du destin, face aux éléments, les émotions humaines ont peu de sens.
Musicalement, en tout cas, elle était totalement décalée par rapport à cette époque. Mais je pense que ça en dit long sur la liberté et l'ouverture qui régnait dans les années 70 que de penser que quelqu'un comme Nico pouvait attirer autant de monde à ses concerts. Moi, je me rappelle qu'elle a été associée en 74 aussi, l'année où elle était à Reims, à John Cale, Kevin Ayers et Eno. Et je crois que c'est John Cale qui a été finalement longtemps le seul à voir en elle presque, comment dire, une sorte de force mystérieuse, enfin quelque chose qui ne ressemblait à rien, où il y avait tout un arrière-monde de quantique allemand, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le rock, qui semblait venir d'un autre temps. Et dans cette remontée à la surface de tout ce qu'il y avait de sombre, de tout ce qu'il y avait de morbide, de tout ce qui avait été refoulé, il y avait la place pour des voix comme la sienne. Ça, c'est évident. Parce qu'il y avait, grâce à l'explosion punk qui a créé une sorte de déchirure dans le paysage, une ouverture pour tous ces maudits, ces maudites, en l'occurrence, dont la voix était peut-être étouffée par ces groupes mastodontes qui les écrasaient, enfin les Stones, les Who, Pink Floyd, etc. Et elle avait quelque chose de prophétique, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a annoncé à une période utopique, plutôt finalement, malgré certains discours alarmistes, contestataires, révoltés, qui était plutôt une époque heureuse, bon enfant. Elle a annoncé quelque chose d'extrêmement sombre, de désolé. Je pense qu'elle était, d'une certaine façon, à l'avant-garde sans le savoir.
J'étais allé à Assas et il y avait un chanteur américain qui passait en vedette. Et elle faisait une première partie. Donc, on s'est dit, bah voilà, on va voir enfin ce que donne Nico en scène. Et au moment où elle rentre en scène, elle fait le salut, comme ça, nazi. Et elle commence à nous chanter Heili, Heilo, Heila, en allemand.
Chanter presque par provocation. J'ai vu des gens quitter la salle, siffler, l'insulter, tout ça. Et je pense qu'elle avait un certain plaisir à provoquer comme ça des conflits. Ça l'amusait beaucoup, je pense.
Sur The End, Elle chante l'hymne national allemand, on peut même dire l'hymne nationaliste, puisqu'elle le chante dans sa version intégrale, avec des couplets qui ont été interdits après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut rappeler que cet hymne a été écrit en 1841, sur un quatuor à cordes de Haydn qui datait de 1797. C'est un hymne qui date de l'époque où l'Allemagne se cherche une unité nationale. Il a été ensuite récupéré donc par les nazis. Les couplets interdits sont les couplets qui décrivent les limites de la Grande Allemagne, c'est-à-dire de tous les pays de langue allemande tels qu'ils étaient présentés en 1841. Et cette Grande Allemagne, on sait ce qu'en ont fait les nazis. D'où l'interdiction de ces couplets. Nico, enfant, à l'école, a appris l'hymne avec tous les couplets. Elle dit, on a enlevé deux couplets, mais la musique est la même, le sentiment est toujours le même. Moi, ce que je veux, c'est mettre en évidence ce sentiment caché derrière la façade de respectabilité de l'Allemagne fédérale des années 70. Et c'est pour cela qu'elle dédie l'interprétation de cet hymne à Andreas Bader, le terroriste qui, dans les années 70, a mis en évidence, a dénoncé justement la présence d'anciens nazis dans les rangs du parti d'Helmut Kohl, par exemple.
Je me fais mal interpréter. Par exemple, quand je chante le hymne allemand, les gens pensent que je suis la fille d'un nazi. Et c'est plutôt l'inverse. C'est...
Il est certain que l'Allemagne dont elle est issue était hantée. Enfin, il y avait plus que des squelettes dans le placard, il y avait une nécropole. Et je pense que ce qui est très frappant dans cette période des années 60, dont on voit beaucoup de clichés lumineux, optimiste, l'énergie de la jeunesse en ce temps-là, enfin ces chansons extrêmement entraînantes, cette envie de changer le monde, cette envie de reconstruire, tout ça c'était vrai, mais vous avez parallèlement à ça une ambiance lugubre, morbide, regardez les films d'Antonioni, les films de Bergman, c'est un sentiment de vide, parce que on ne trouve pas les mots pour dire ce qui vient de se passer, et cette envie d'oublier se superpose à un non-dit énorme. Et les gens, sans le savoir, charrient en eux plus que le deuil, enfin la culpabilité de ce qu'ont fait leurs parents, leurs frères, leurs cousins, je sais pas. Enfin, tout ça est très proche quand même. Les années 60, c'était quand même 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à peine. Et c'est de ce monde-là, de ces ruines-là, que vient Nico. Et je pense qu'il y a vraiment le chant des morts, quoi, le chant des fantômes, le chant des sacrifiés dans sa voix.
Elle était enfant, Nico a grandi à Lübbenau, à 80 km au sud de Berlin, chez son grand-père, qui était l'aiguilleur de la gare de Lübbenau. Elle a grandi en voyant passer chaque jour les trains qui partaient pour l'Est, chargés de soldats, chargés de déportés. Et lorsqu'elle jouait, elle allait avec sa meilleure amie, qui était la fille du fossoyeur, jouer dans le cimetière. Le soir, tous les soirs de la fin de la guerre, Nico, sa mère, voit Berlin flamber. Le ciel est rouge au loin, au nord, et c'est Berlin qui flambe.
Et c'est en ça, je pense que son œuvre n'est pas une œuvre dont on sort entièrement indemne. Mais c'est une œuvre dont on sort renseigné. Comme si sa musique était sa version de ce que Michaud appelait, parlant de la drogue, la connaissance par les gouffres. En ça... c'est une des œuvres les plus radicalement singulières dans le rock. Et c'est une œuvre vraiment, alors, authentiquement subversive, hein, puisque elle va jusqu'à mettre en question tout ce qui nous forcerait à être vivants, comme si elle nous suggérait que on peut aussi être à la dérive, on peut aussi être ailleurs, on peut aussi être mort.
Alerte, je l'ai près de moi, près de la frontière, je l'ai. En réflexion innombrable, lève un sourire de tes yeux dans les miens. Alerte, gelée, près de la frontière, gelée, sur les voies de la gare, floute faiblement un petit cri de 100 000 cycles, un millier de cycles à venir. Alerte, gelée, près de moi, alerte, j'allais 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 près de moi, alerte,
j'allais. My image of her is mixed, you know, sometimes beautiful, sometimes a monster, sometimes
James Young.
Very, very.
Elle était parfois belle, parfois un monstre, parfois très talentueuse, parfois très dure et froide. Elle semblait être ces deux choses à la fois.
Just working with her, you know, she taught me a lot about art and how you can occupy a space on a stage and make it your own.
Elle m'a beaucoup appris sur la manière d'occuper une scène, sans effort apparent, sans trop en montrer.
You know, a lot of rock performers, they run around the stage, they throw themselves about, they make all these.
Beaucoup d'artistes rock courent autour de la scène, font des gestes et des mouvements hystériques. Nico était très calme. Elle avait cette capacité de faire sien n'importe quel espace. C'était très beau et très inspirant.
You have to really move a little back there. Can't stand the people.
Dans l'œuvre de Nico, enfin dans sa trajectoire, on va dire, il y a toujours un homme. En études littéraires, on dit un adjuvant, c'est-à-dire quelqu'un qui fait advenir les choses, qui fait accoucher, et comme si elle avait besoin d'un sage homme. C'est assez manifeste chez tous les artistes qui ont servi Nico, chez Warhol, chez John Cale et chez Philippe Garrel, que il se dégage d'elle une telle puissance de fascination que elle leur appartiendra jamais. Elle n'est pas modelable. C'est pas Pygmalion et sa statue. Elle est et elle sera toujours une statue qui parle, enfin comme chez Cocteau, mais qui parlait déjà avant de rencontrer le sculpteur. Elle a aussi été la grande accoucheuse, c'est-à-dire c'est elle qui les a fait accoucher d'une chose dont ils ne savaient pas qu'elle était là. Je crois que Warhol n'est jamais assez bon que quand il filme Nico dans Chelsea Girl en tant que cinéaste. Et je crois que John Cale n'est jamais aussi bon que lorsqu'il sert Nico. Pour Philippe Garrel, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il touche à l'occasion de Nico à quelque chose qui est de l'ordre de c'est pas de la poésie pure, mais parce que Nico, c'est déjà de la poésie pure. Et Nico, c'est comme une drogue que prendraient ces hommes.
The extension of the eye. You are not the extension of my eye. I am the extension of your eye. I do not know your eye. It does not see me. It does not see me now. It does not see me pass the time between.
On ne sait pas d'où vient la voix de Nico, elle vient d'un corps, hein, ça c'est évident. Et on peut faire le jeu de mots en anglais, que cette voix, elle vient d'au-delà du grave, beyond the grave. Et beyond the grave, c'est d'outre-tombe. Dans le journal d'Andy Warhol, enfin dans ses mémoires qui s'appellent Popism, ses mémoires des 60s, il décrit comment Leonard Cohen venait s'asseoir soir après soir en 1966 lorsque Nico donnait ses premiers concerts en solo dans le Lower East Side de New York. Et il dit que Leonard Cohen est en train de tomber amoureux de la voix qu'il aura plus tard. Et je crois qu'à un moment, on se rend compte que cette voix, c'est la voix de la mort. La voix de la mort en elle. Ça peut être qu'une voix qui vient d'un au-delà, en réalité. Et je crois que chacun aura le sentiment que cette voix, elle provient d'ailleurs, et que c'est pas une voix qui est exclusivement une voix extérieure, d'ailleurs. C'est pas juste la voix de Nico. Que cette voix grave, elle est tellement archétypale qu'elle surgit de nous-mêmes aussi. Elle fait partie de ces artistes qui ont cette capacité à nous parler depuis l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'elle puise à des profondeurs qui sont des profondeurs où on se rejoint tous dans notre condition de mortel. Et elle, je crois qu'elle pousse cette condition-là très très loin dans la mesure où elle sait, et sans doute dès le départ, qu'elle est déjà dans le sommeil des morts. Et du coup, tout ce qui est vivant en elle, lorsqu'on regarde son visage et que son visage a soudain une expression, cette expression est d'autant plus touchante parce que c'est comment quelqu'un qui est aussi mort peut-il par moment être aussi vivant ?
Since the first of you and me asleep in a Nibelungenland, Titanic curses trapped me in a banishment of state. Symbols vanish from my senses, dim and stale the view appears. Symbols captured in a trance vanish from my glance, for the various defenses. Iron forces strike the alarm, for the various defenses.
Nico, les cicatrices intérieures.
I choose to be here and there, and lose the direction everywhere.
Avec Mishka Sayas, Étienne Dao, Patrick Eudlin, Serge Ferret, Thierry Jousse, Christophe Lebold, James Young et Zouzou. Poèmes et chansons de Nico, lus par Kate Moran. Archivina Pop 2, Patrice Blanc-Francard, 1972. Archive France Musique, Marc Moulin, 1976. Extrait de La cicatrice intérieure de Philippe Garrel. Prise de son, Jean-Guilain Meige, Éric Boisset, Éric Villenfin. Mixage, Frédéric Changenet. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Céline Terce. Un grand merci à Mireille Perrier et Antoine Jacomoni.
Since the first of you and me here and there, we lose the direction everywhere. Shrieking city sun shiver in my veins. In flames I run,
Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture, un site enrichi par Pascaline Bonnet. Je vous retrouve samedi prochain à 16h pour un autre rendez-vous avec l'année 1969.